السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى a révélé son noble livre pour nous illuminer et nous enseigner ce que nous ne connaissions pas. Parmi les merveilleux chapitres du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les plus courts en termes de nombre de mots, mais les plus bénéfiques en termes de la profondeur de ses sens, il y a la sourate que beaucoup d'entre vous connaissez. Et si vous ne la mémorisez pas au minimum, vous la connaissez dans le sens où vous l'entendez souvent et l'avez entendue souvent. Ce n'est autre que la surah, suratul Kawthar, surat l'abondance, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Bismillahir Rahmanir Rahim, inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar » Inna shani'aka huwal abtar. Dans le sens des versets, s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala lui dit: nous t'avons certes donné l'abondance. Accomplis donc la prière pour ton Seigneur et l'immolation. Celui qui te hait sera le privé. Trois versets qui composent cette noble sourate, mais les sens sont grandioses et profonds. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'informant et en lui rappelant ce grand bien qu'il s'est vu accorder, al-kawthar, l'abondance dans le bien de manière générale. Bien qu'il y ait un sens plus particulier, dont vous allez entendre parler d'ici peu, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais avant d'entrer dans le sens particulier, Allah Azza wa Jal a accordé l'abondance au prophète, alayhi salatu wa salam. Et d'ailleurs, Allah Ta'ala a dit, inna a'tainak, nous t'avons certes donné. C'est donc un don émanant d'Allah. Ce qui montre l'importance de la donation est la grandeur du donateur. Donc, puisque c'est Allah qui l'a accordé au prophète, alayhi salatu wassalam, cette donation est quelque chose d'immense et de sublime chez lui, subhanahu wa ta'ala, ayant la plus grande valeur. Le terme al-kawthar vient du mot arabe al-kathra, qui veut dire l'abondance. Le fait d'avoir une chose en abondance. De manière générale, Allah Ta'ala a accordé l'abondance de biens au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a élargi sa poitrine, alayhi salatu wa sallam. Il a élevé son rappel, si bien qu'il n'y a pas un seul appel à la prière qui est prononcé sans que n'y soit cité le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il lui a accordé l'abondance de biens dans la connaissance et la crainte d'Allah, azza wa jal, si bien qu'il a dit, « Ana a'lamukum billah wa ashaddukum lahu khashya. » Je suis le plus connaisseur d'entre vous, d'Allah, et celui qui le craint le plus. Il a accordé l'abondance à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le bien des récompenses qui découlent des bonnes actions. Si bien qu'à chaque fois que l'un d'entre les croyants musulmans accomplit une bonne œuvre, qu'il s'agisse d'une parole bonne prononcée ou d'une action physique, ou encore une conviction dans le cœur ou une action du cœur telle que la crainte d'Allah, l'amour d'Allah, l'espoir en Allah, pas un seul croyant ne fait une de ces choses précitées sans que la même récompense ne soit donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si 1 milliard de musulmans accomplissent 2 raka'a, eh bien, il y aura pour ce milliard de musulmans l'équivalent de la récompense de chacun au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il en est l'initiateur, l'enseignant, alayhi salatu wa sallam. Et cela fait partie de l'abondance qu'Allah lui a accordée, azza wa jal. Il lui a accordé l'abondance dans le nombre de suiveurs. Les suiveurs du prophète, alayhi salatu wa sallam, sont bien plus nombreux encore que les suiveurs de tous les nobles prophètes qui furent envoyés avant lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, énonce cela très clairement dans un récit rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lorsqu'il dit « Rufi'at liya al-umam » les communautés m'ont été présentées. Les savants ont divergé sur la vision de cette scène. A-t-elle eu lieu en rêve ou bien lors du voyage nocturne? Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qu'il a vu, sallallahu alayhi wa sallam, d'une scène qui arrivera et se produira le jour dernier. Quelle est cette scène? On m'a montré les communautés. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْتُ. J'ai vu un prophète accompagné par un groupe de moins de 10 personnes. وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ. Un autre avec 1 ou 2 hommes. وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. Et j'ai vu un prophète n'ayant été accompagné par aucune personne. Personne ne l'a suivi. Il dit فَنَظَرْتُ فَإِذَا بِسَوَادٍ عَظِيمٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي. Et je me suis mis à regarder et j'ai vu une immense foule, un très grand groupe de gens. J'ai pensé qu'il s'agissait de ma communauté. Il me fut dit هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. Voilà Moussa et sa communauté, ses suiveurs. Il dit ensuite, puis j'ai regardé et j'ai vu un autre groupe immense. On m'a dit, c'est ta communauté, ceux qui t'ont suivi. Et il y aura avec eux 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Allahu Akbar. Et les savants disent que le nombre de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus grand que celui de la communauté de Moussa alayhi salam, et cela fait partie de l'abondance qu'Allah lui a accordée par sa grâce azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un bassin rempli d'eau dont les croyants de laquelle les croyants viendront boire une seule gorgée après laquelle ils n'éprouveront plus jamais la soif pour l'éternité. Et cela fait partie de l'abondance qu'Allah lui a donnée, Azza wa Jal. Également, il lui a accordé l'abondance de biens, dans le sens où il sera de sa communauté ou des communautés de manière générale, le premier à pouvoir traverser As-Sirat, le pont qui sera dressé au-dessus du feu de l'enfer, le jour dernier, duquel beaucoup sont ceux qui tomberont dans le feu qu'Allah nous en préserve. Il lui a accordé l'abondance dans la grande place qu'il lui a donnée au paradis et la hauteur de son degré. Il lui a accordé l'abondance en lui accordant la permission d'intercéder en la faveur des ayants droit à l'intercession le jour dernier, afin qu'il puisse entrer au paradis et atteindre de hauts degrés. Ainsi, il a eu l'abondance dans toutes choses. Mais de manière plus particulière, il est venu dans les textes, s'agissant de Al-Kawthar de manière plus particulière, que c'est un fleuve qu'Allah Azza wa Jal a donné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans le paradis. D'ailleurs, le bassin dont nous avons parlé tantôt, duquel pourront boire les musulmans pour ne plus jamais éprouver la soif. Ce bassin est rempli d'une eau qui arrive du Kawthar. Et Al-Kawthar, c'est un fleuve qui est au prophète, alayhi salatu wassalam, présent au paradis. Dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Inna a'tainak al-Kawthar » Nous t'avons accordé l'abondance, Al-Kawthar. Un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et muslim d'après Anas, qu'Allah l'agrée, dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam nous informe que Al-Kawthar Naharun Azim fil Jannah, c'est un fleuve immense au paradis. Hafatahu qibabul lu'lu' al-mujawwaf, dont les deux flancs, dont les deux rives ou les deux côtés sont faits de rubis. Tout comme l'imam Tirmidhi rapporte une description de l'eau del Kawthar comme étant plus blanche encore que la neige et dont la saveur est plus sucrée que le miel. Tout comme l'imam al-Bukhari rapporte d'après Aïcha radiyallahu anha que le nombre de récipients utilisés pour boire de cette eau est égal au nombre des étoiles. Allahu Akbar. Cela fait partie de l'abondance qu'Allah lui a accordée, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas confondre Al-Kawthar et Al-Hawd. Quand nous parlons de Al-Kawthar, il s'agit du fleuve présent au paradis. Quand nous parlons de Al-Hawd, c'est le bassin présent avant l'entrée au paradis, dont l'eau arrive du Kawthar, qui lui est au paradis. Ainsi, Allah a accordé cette abondance de biens et ce bassin, ce fleuve, à son prophète alayhi salatu wa salam. Étant donné qu'il s'agit d'un bienfait immense, sans pareil, Allah Azza wa Jal va maintenant lui ordonner dans le deuxième verset de lui montrer toute sa gratitude, de lui être reconnaissant, en disant « Fasalli li rabbika wanhar » Accomplis donc la prière pour ton Seigneur et pratique l'immolation, ou alors le sacrifice. Tu remarques qu'Allah Azza wa Jal a dit « Fasalli » c'est-à-dire « Accomplis donc ». En d'autres termes, étant donné que nous t'avons accordé le Al-Kawthar, tu te dois, pour cette raison, d'accomplir la prière pour Allah Azza wa Jal, car elle relève de la reconnaissance envers Allah. Comme Allah Azza wa Jal a dit « I'malu ala Dawood shukra » œuvrez, ô la famille de Dawood, dans la reconnaissance envers Allah. Et quand Allah t'accorde un bien, tu dois te montrer reconnaissant. Et parmi les manières de lui exprimer cette reconnaissance, l'accomplissement de la prière, dans laquelle il y a la vénération d'Allah et la reconnaissance de sa grandeur, et du fait qu'il soit l'unique donateur de ce bienfait, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, plus la personne adore Allah et lui obéit, en résultat à un bienfait qu'elle s'est vu donner, comme la santé, la richesse, la descendance, un poste, eh bien, plus elle se voit accorder ce bienfait, plus elle remercie Allah par la prière subhanahu wa ta'ala. Quelle grande ingratitude envers Allah que d'abandonner ou ne pas accomplir cette noble adoration qu'est la prière. Tout de suite après, Allah Azza wa Jal a dit « Wanhar » et pratique l'immolation ou le sacrifice. Le sacrifice consiste à immoler une bête au nom d'Allah ou tabaraka wa ta'ala et cette pratique est l'une des meilleures adorations d'Allah qui se fait financièrement. Et la prière est la meilleure adoration physique. Ainsi, ces deux adorations ont été jointes l'une à l'autre pour montrer la grandeur de l'une et de l'autre. La prière est la plus grande adoration physique. L'immolation est l'une des plus grandes adorations financières. Ce n'est pas pour rien que nous allons retrouver ces deux adorations dans le cinquième pilier de l'islam qu'est le pèlerinage. Et ce n'est pas pour rien que le pèlerinage prend toute cette valeur chez Allah puisqu'il réunit en lui les plus belles des adorations qui plaisent le plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Le sacrifice qui consiste à immoler une bête, que ce soit un mouton, que ce soit une vache, que ce soit un chameau et toutes les autres bêtes qui sont sacrifiables, comme Allah l'a légiféré et prescrit, subhanahu wa ta'ala, est une des plus belles actions chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Et vous remarquerez qu'Allah Azza wa Jal a dit « Fasalli li rabbika » accomplis la prière pour ton Seigneur, « Wanhar » et pratique pour lui l'immolation, car c'est pour Allah seul que cette action doit être pratiquée. Allah Ta'ala a dit « قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » dit « Certes, ma prière, mon sacrifice, ma vie, ma mort sont des choses uniquement vouées à Allah » jusqu'à la fin des versets. Ainsi, encore une fois, la prière a été jointe au sacrifice et décrite comme étant un acte qui ne doit être œuvré que pour Allah, Azza wa Jal. Il ne convient pas de sacrifier pour un autre qu'Allah, qu'il s'agisse d'un homme, d'un mort, d'un objet inerte, d'un djinn, comme cette pratique se répand dans bon nombre d'endroits où l'on voit les gens acquérir un bien, qu'il s'agisse d'un bien immobilier, voiture, financier, etc. Puis ils se mettent à immoler un poulet, un bœuf, une bête, en y évoquant le nom d'un autre qu'Allah, à la recherche de la protection du djinn dont ils évoquent le nom au cours de ce sacrifice. Puis ils prennent de ce sang et le font couler sur le bien qu'ils viennent d'acheter et se disent que par là, ils auront la protection. « A'udhu billah ». Inna hadha huwa shirkul azim. Cet acte relève du polythéisme majeur, terrible, et c'est le pire des crimes chez Allah. Allah ne le pardonne pas si la personne ne se repent pas à Allah. Allah Ta'ala a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue quelque associé, mais il pardonne à part cela, à qui il veut. C'est-à-dire que la personne qui meurt dans l'état de shirk, de polythéisme, de le fait d'avoir voué un culte à autre qu'Allah, elle ne se verra jamais pardonnée par Allah. Alors qu'il est possible à la personne ayant commis des péchés majeurs ne relevant pas du polythéisme, de se voir pardonnée par Allah, tabaraka wa ta'ala, si Allah en décide ainsi. Et ça te montre la gravité du shirk. Le shirk, le polythéisme annule toutes les actions. La personne peut œuvrer depuis sa puberté jusqu'à sa mort, peut-être pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans et plus encore, et voir toutes ses actions rejetées le jour dernier. Allah Ta'ala a dit « وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » Et s'ils avaient pratiqué le shirk, le polythéisme, l'association, toutes leurs actions auraient été vaines. Allahu Akbar. Et il y a bien d'autres menaces dans le livre d'Allah contre le shirk. Fasalli li rabbika wanhar. Accomplis donc la prière pour ton Seigneur. La prière est le pivot de la religion. La prière est la plus grande action chez Allah après la prononciation des deux attestations de foi, à savoir Ashhadu an la ilaha illallah. La prière est le pivot de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et l'acte le plus aimé de lui. Elle réunit en elle les actions du cœur, les paroles de la langue et les actions des membres. Ces trois composantes de la foi, car la foi est définie comme étant un ensemble de convictions du cœur, de paroles de la langue et d'actions des membres. La prière est donc une manifestation claire de la réalité de la foi. Car à travers la prière, la personne doit l'accomplir avec un cœur recueilli, avec un amour pour Allah, un espoir en sa miséricorde, une crainte de son châtiment, une confiance en Allah, une bonne opinion d'Allah, une sincérité envers Allah, et toutes ces choses-là sont dans le cœur. Tout comme la personne qui prie doit réciter du Coran, et invoquer Allah, ce sont des paroles de la langue. Tout comme elle doit faire des actes physiques, l'inclinaison, la prosternation, se relever, et ainsi de suite. C'est donc l'une des plus merveilleuses adorations d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, Omar radiyallahu anhu a dit, « La hadza fil islam liman taraka salah » Nulle part d'islam pour quiconque délaisse la prière. Et une menace gravissime est adressé à quiconque n'accomplirait pas la prière. Ayoub al-Sirtiyani L'un des pieux prédécesseurs a dit « Tarkus salati kufrun la yukhtalafu fih » L'abandon de la prière est une mécréance au sujet duquel il n'y a nulle divergence. Il faut donc prendre garde à l'abandon de cette prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man tarakaha faqad kafar » Quiconque l'abandonne aura certes mécru. C'est une menace adressée à quiconque abandonnerait la prière. Il incombe de revenir à Allah, surtout dans ce mois béni, Shahru Ramadan, le mois du Coran, le mois de la prière, le mois de l'adoration d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ô toi qui écoutes et qui n'accomplis pas la prière, qu'attends-tu pour un retour sincère envers ton Créateur? Est-ce que ton Créateur, lui, a attendu avant de t'accorder la subsistance? A-t-il attendu avant de te faire jouir de ces nombreux bienfaits desquels tu ne cesses de jouir? Pourquoi attends-tu, toi, de te montrer reconnaissant envers lui, en te prosternant, en t'avilissant devant lui, en priant, en disant « Allahu Akbar », en disant « Subhana Rabbi al-Azim », en disant « Subhana Rabbi al-A'la », en disant « Oh Allah, pardonne mes péchés, guide-moi dans le droit chemin ». Qu'attends-tu pour t'honorer, pour t'élever, pour réussir, pour te conduire vers la félicité à travers l'accomplissement de cette noble prière? Il ne faut pas la délaisser, ni l'abandonner, et pas la négliger non plus. La prière, son affaire est extrêmement étonnante, à tel point que le musulman n'a en aucun cas le droit de la délaisser, peu importe les différentes situations, aussi difficiles et contraignantes soient-elles, qu'il sera amené à traverser, telles que la maladie, la situation de peur, ou encore celle du voyage, la fraîcheur intense, la chaleur intense, et j'en passe. Dans toutes ces situations, le musulman n'a pas le droit d'abandonner la prière. Le malade alité doit prier. Face à l'ennemi, il doit prier. En voyage, il doit prier. Il y a des facilités, bien sûr, qui lui sont ouvertes, mais cela te montre qu'en aucun cas tu n'abandonnes la prière. Aujourd'hui, des gens te disent « Malheureusement, je n'ai pas pu prier parce que j'ai été pris au travail, pris dans le commerce, en réunion, en rendez-vous. » Subhanallah et Rabbil Alamin. Ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses nobles compagnons qui sont ton modèle et ton exemple, ont été amenés, à travers l'histoire de l'islam, à faire face à Quraysh, par exemple, le peuple du prophète, alayhi salatu wa sallam, auquel ils se sont opposés en pleine guerre. Et pourtant, ils devaient accomplir la prière, et pas seulement, ils l'accomplissaient en groupe, pour qu'aujourd'hui, on entende un musulman dire « J'ai été pris par telle et telle occupation ». Est-ce que tu as été pris par la menace de quelqu'un qui te menaçait de mort? Est-ce que tu as été pris par une maladie gravissime? Non. Ainsi, il faut se remettre en question et revoir ses priorités. La prière est une priorité. Et ce n'est pas notre prière qui va s'adapter à notre vie, mais c'est la vie que l'on mène qui doit s'adapter à notre lien avec Allah, puisqu'il est la raison de notre création. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Certes, un shaitan va te faire peur de la pauvreté. Il va te faire peur, mais si tu crois en la promesse d'Allah, jamais tu ne seras laissé ni abandonné. Ainsi, le musulman fait attention à tout ce qui vient d'être dit et tout ce qui est cité dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le sacrifice ne doit être voué qu'à Allah, tabaraka wa ta'ala, et pour personne d'autre que lui, il n'y a pas, il n'y aura jamais de bénédiction, de protection, de subsistance à gagner chez un autre qu'Allah en immolant pour cet autre. Jamais. Au contraire, la subsistance va disparaître. Et si elle ne disparaît pas, alors la bénédiction y disparaîtra. La personne aura alors les poches pleines, mais le cœur vide. Qu'Allah nous en préserve. Il faut savoir deux choses concernant l'immolation, le sacrifice de la bête. La première, elle se fait d'une manière qui est bien particulière, à savoir, la bête doit être égorgée. On ne sacrifie pas la bête, que ce soit à l'aide de l'électrocution, ou alors en l'assommant, ou alors en la noyant, et ainsi de suite. Ces actions ne rendent pas la viande licite. Dans l'islam, le sacrifice se fait à l'aide d'un couteau qui doit être bien aiguisé et on doit prendre soin de la bête et ne pas la faire souffrir autant que possible. La deuxième chose, dans le sacrifice, le nom d'Allah doit être cité. Nous devons dire « Bismillah, Allahu Akbar ». Et si le nom d'Allah n'est pas cité sur une bête ou le nom d'autre qu'Allah, alors cette bête ne doit pas être mangée. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق أجي الله. Et ne mangez pas ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été mentionné. Cela relève de la désobéissance. Quelqu'un pourrait dire, est-ce que si je sacrifie une bête dans le but tout simplement de manger ou d'honorer mon invité, est-ce que ce sacrifice est considéré comme un sacrifice pour autre qu'Allah? La réponse est non. Il ne s'agit pas de cela, car en agissant ainsi, tu as dit « Bismillah, Allahu Akbar » et tu as pris de la viande qu'Allah t'a rendue licite. Mais ce dont il s'agit quand nous parlons de l'interdiction de sacrifier pour un autre qu'Allah, c'est le fait de mentionner le nom d'un autre qu'Allah lors du sacrifice, ou alors, peut-être en mentionnant le nom d'Allah, d'avoir l'intention de se rapprocher d'un autre qu'Allah. Voilà le sacrifice pour un autre qu'Allah. Le dernier verset, « Inna shani'aka huwa al-abtar » Celui qui te hait est celui qui est en réalité rompu, c'est-à-dire privé. Il a été rapporté, dans l'explication, dans le tafsir de cette noble sourate, que les polythéistes de Quraysh avaient blâmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'étaient moqués de lui du fait qu'il n'avait pas de fils, du moins. Il en a eu, mais ils sont morts en bas âge. Et alors, ils ont été pris de joie du fait qu'il n'allait plus être cité. Car comment est-ce que l'homme est cité? Lorsque son fils est vivant, les Arabes disent « un tel fils de un tel ». Étant donné qu'il n'allait pas avoir de garçon, sallallahu alayhi wa sallam, il n'allait plus être dit « un tel, tel garçon, fils de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam ». Donc, ils se sont dit « il ne va plus être mentionné ». Ils ont été pris de joie pour cela. Après la mort de son fils, Abdullah, ils se sont dit « on ne parlera plus de lui, on ne dira plus « un tel fils de Mohammed, alayhi salatu wa sallam ». Mais Allah, azza wa jal, a consolé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en révélant cette sourate, pour lui dire « Inna shani'aka huwa al-abtar » Celui qui te hait est le véritable privé rompu. C'est lui qui est privé. Car en réalité, même si tu n'as plus de fils, chaque appel à la prière qui est prononcé partout sur terre va contenir ton nom. Ton nom va être plus prononcé encore que quiconque parmi les gens ayant vécu dans cette dunya. Car tu es le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tu as été élu par Allah. Tu es l'homme au comportement le plus éminent. Tu es l'homme à la plus belle moralité. Tu es l'homme le plus servant d'Allah, azza wa jal. Tu es le modèle. Et ton nom ne cessera d'être évoqué tant que cette terre ne cessera, bi-idhnillahi ta'ala, d'exister jusqu'à ce qu'Allah en voudra autrement, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le véritable privé n'est pas toi, ô messager d'Allah. Le véritable privé est celui qui aura été rompu de tout bien, privé de tout bien parce qu'il te hait, parce qu'il te déteste. et celui qui est le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, est privé par Allah. Il est privé de bien. Même s'il possède du bien en apparence, il n'en demeure pas moins que dans la réalité, chez Allah Azza wa Jal, il n'a pas de valeur et ne possède pas de bien. Attention, cela ne veut pas dire qu'il est légiféré à l'un d'entre nous de porter atteinte ou d'être injuste, d'agresser physiquement ou autre une telle personne. Non, ça ne veut pas dire cela. Allah la jugera, subhanahu wa ta'ala. Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te déteste est le véritable privé, ô messager d'Allah. Il sera privé dans cette vie d'ici-bas et privé dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla a dit: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. Il en est ainsi car ils ont éprouvé de l'aversion pour ce qu'Allah a fait descendre. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ. Allah a ainsi rendu vaines leurs œuvres. C'est-à-dire que même s'ils font de bonnes œuvres, étant donné qu'ils éprouvent de l'aversion pour la révélation d'Allah, ces bonnes œuvres n'auront aucun poids ni valeur le jour dernier où ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être aimé. Il nous dit d'ailleurs, dans le récit rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. » Je jure par celui qui tient, aucun d'entre vous ne sera pleinement croyant jusqu'à ce qu'il m'aime plus que sa propre personne, plus que son père, son enfant et l'ensemble des gens. C'est à ce moment-là seulement que l'un d'entre nous pourra atteindre le véritable niveau de la foi, quand il préférera le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam à son propre père et à son propre fils. Pour cela, dans un récit qui est rapporté dans la sunna, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Zayd ibn Dathina a été emprisonné par les polythéistes, et puis ils l'ont mis dans un endroit pour tenter de le tuer ou de l'assassiner. Ils lui ont dit à Zayd, أَتُحِبُّ أَنَّكَ وَأَهْلَكَ وَمَالَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا مَكَانَكَ. أَتُحِبُّ أَنَّكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا مَكَانَكَ. Oh Zayd, aimerais-tu, donc il était sur le point de se faire tuer, ce n'est pas rien. Oh Zayd, lui dirent-ils, aimerais-tu être auprès des tiens en ce moment même, avec tes biens, et que Mohammed soit à ta place? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, Wallahi, inni la uhibbu an akuna fi ahli wa mali, wa anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallama tusibuhu shawka. Allahu Akbar. Je jure par Allah que je n'aimerais pas être en présence de mes biens et des miens, les membres de ma famille, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est touché d'une épine. Une épine, alayhi salatu wa sallam. Abu Talha al-Ansari, radiyallahu anhu, a dit, « Ya Rasulallah, لا تشرف على المشركين في غزوة أحد أن يصيبك سهم من سهامهم نحري دون نحرك يا رسول الله. Le compagnon lui dit, ô messager d'Allah, ne te mets pas face aux polythéistes pendant la bataille de Uhud. Il lui dit, afin que tu ne sois pas touché d'une de leurs flèches. Ô messager d'Allah, c'est moi qui sera devant. Je mettrai mon corps devant le tien comme bouclier. Allahu Akbar. Très nombreux sont les récits de l'amour que les compagnons ont témoigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela te montre la valeur de ce noble personnage. Wallahi, wallahi wa billah, wa tallahi al-azim, innahu la afdalu الناس على الإطلاق. وما ولدت مرأة مثله. Aucune femme n'aura jamais enfanté mieux que Mohammed ibn Abdullah. Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te hait sera le véritable privé, le véritable rompu. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.